Bonsoir. Dans la tribune de la presse ce soir, nous échangeons sur la fin des consultations politiques visant la formation d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. Pendant deux semaines, bon nombre d'acteurs politiques congolais et certains membres de la société civile ont été reçus en audience par les conseillers du président de la République en recueillant leur point de vue sur la crise sécuritaire et politique actuelle au pays. Dans notre second thème, avec mes confrères journalistes, nous parlerons du début des discussions à Doha, au Qatar, entre les envoyés du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23. Au micro, Freddy Bikumbi Ignace. Nous sommes avec Brunel Kati, journaliste-chercheur en sciences juridiques basé à Kolwezi. C'est en province de Lualaba. Bonsoir Brunel.
Bonsoir Freddy et bonsoir à toutes et à tous.
Aussi en ligne, nous sommes avec Crispin Focas, journaliste reporter et directeur de la radio Soleil FM à Kananga. Nous sommes au Kasaï. Bonsoir Crispin.
Bonsoir Freddy, bonsoir à tout le monde.
Avec moi au studio, Monsieur Obed Kambale. Bonsoir.
Bonsoir Freddy, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Gabi.
Vous êtes journaliste à Digital Congo, ici à Kinshasa.
Oui.
À toutes et à tous, bienvenue. Tribune de la presse, confrères journalistes, faites-nous part de vos commentaires, analyses sur les informations politiques, sociales, économiques qui vous ont marqué cette semaine. Je commence avec vous, Crispin Focas.
Oui, merci Freddy. Il faut dire que la journée du mardi, cette semaine, c'était une grande journée pour la province du Kasaï central. Il y a le ministre national de la Défense qui a fait les déplacements de Kananga pour la cérémonie de prise d'armes à l'école de formation des officiers, donc l'académie militaire de Kananga. C'était pour la 19e promotion spéciale et la promotion ordinaire des sous-officiers, notamment des lieutenants, qui ont pris les armes sous la direction ou la modération de M. Guy Mwadianvita Kabombo, qui est ministre de la Défense. Et dans sa suite, il y avait tout un arsenal de députés nationaux et sénateurs du Grand Kasaï qui ont fait le déplacement de la ville de Kananga. Et c'était une occasion pour tous ces élus, toutes ces grandes personnalités du Grand Kasaï de venir encourager les nouveaux militaires, les nouveaux officiers qui vont pouvoir apporter un plus dans l'armée de la République démocratique du Congo, surtout pendant cette période où le pays est agressé injustement par le Rwanda à travers sa nébuleuse M23 AFC.
Merci bien. À vous, Obed Kambale. Quelle est l'actualité qui vous a marqué ici à Kinshasa?
Oui, je vais parler plus économie. Vous le savez, depuis lundi dernier, la République démocratique du Congo est la capitale de l'Afrique. Parce que les travaux techniques des experts de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, ont été lancés ici à Kinshasa, à prélude de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAF, qui vise donc l'intégration continentale avec un marché commun africain, et avec la contribution d'une union douanière, et tout cela pour accroître le commerce intra-africain. Et hier, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a fait la ronde des réunions pour se rassurer que tous ces travaux se passent très bien, parce que les conclusions des travaux des experts seront soumises à l'appréciation des ministres des 54 pays membres de la SNECAF. Et après l'étape des ministres, ces conclusions donc pourront être transmises au niveau des 54 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SNECAF. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, la réunion des hauts fonctionnaires du commerce de la SNECAF vient de commencer à Kinshasa. Et le lundi, le 15, le président de la République en personne, Félix Tshisekedi, va donner l'ego de la réunion du Conseil des ministres de la SNECAF. Et cela prouve que la République démocratique du Congo, c'est un pays fréquentable parce qu'accueillir 54 pays à Kinshasa, c'est un signal fort pour les agresseurs de la République démocratique du Congo avec leur supplétif de l'AFC M23. Malgré la guerre, la RDC reste un peu stratégique et puis fréquentable.
Rendons-nous à Kolwezi, c'est dans la province de Lualaba, avec vous Brunel Kati.
Voilà, l'actualité dans la province du Lualaba reste caractérisée par la mobilisation des jeunes gens à intégrer les forces armées, le rang des forces armées. Et ce qui est salué ici est la réactivité, la façon dont la population est en train d'accueillir, n'est-ce pas, cette mobilisation. Je suis en train de signaler ici que nous venons d'enregistrer déjà les départs d'à peu près 1000 jeunes qui sont venus d'une manière aussi volontaire, intégrer, n'est-ce pas, les rangs des forces armées. Et c'est là à la suite de l'appel lancé par le chef de l'État et répercuté dans la province du Lualaba par Mme Titi Masoukessaïni, qui est la gouverneure de province. Donc, dans la province du Lualaba, c'est quelque chose qui est installé, la mobilisation continue. Et trois avions, ou encore deux avions, étaient partis, et d'autres bus, avec nos compatriotes qui ont accepté d'intégrer librement les rangs des forces armées. Et nous pensons que ces derniers vont devoir jouir, n'est-ce pas, de la confiance de toute la République, mais aussi particulièrement de notre confiance, nous qui sommes de la province du Lualaba, parce qu'il s'agit des nos proches qui font partie, qui ont accepté de pouvoir intégrer les rangs des forces armées, tout en se mettant en tête qu'il n'est pas question de partir, mourir ou faire quoi que ce soit, mais il est question justement de pouvoir manifester son adhésion, n'est-ce pas, à l'amour de la patrie. Pour finir, permettez-moi de commenter l'empire qui règne dans la province du Lualaba en rapport avec la conférence des gouverneurs annoncée pour le mois de juin. Et toutes les batteries sont en marche. Nous pouvons le voir presque dans les différents points de la Vidéo-Polynésie.
Merci à vous tous pour ces informations partagées. Eh bien, face à la détérioration de la situation sécuritaire au Nord Kivu et au Sud Kivu, et ajouter une crise politique entre les acteurs politiques congolais, le président de la RIC a mandaté son conseiller spécial en matière sécuritaire, Cachemire et Bérand Kolongele, à amont de consultations qui auront pour objectif la formation d'un gouvernement d'union nationale. Certains politiciens de l'opposition n'ont pas accepté cette main tendue du chef de l'État. Ils ont préféré boycotter ces consultations. D'autres politiciens de l'Union sacrée de la nation ont répondu favorablement à cette démarche. Veuillez suivre les divergences de vues autour de cette question dans ces extraits tirés du magazine Dialogue entre Congolais au micro de Kelly Kouté. Ici, c'est M. Fumu Toto qui est un cadre de l'Union sacrée de la nation.
Pour nous, le bilan est largement positif. Positif parce que dans les documents portant invitation aux consultations politiques ou sociopolitiques initiées par le président de la République et exécutées par son conseil spécial en matière de sécurité, le document n'a pas cité les noms des personnes qui devaient être invitées. Il s'agissait simplement d'une volonté d'ouverture politique envers nous-mêmes et envers ceux qui n'étaient pas avec nous, du moins jusqu'à ce péril qui guette notre cher et beau pays. Et maintenant, tous ceux qui voulaient être consultés ont été consultés. Tous ceux qui ne le voulaient pas, c'est de leur pire droit. Et finalement, nous avons clôturé ces consultations et nous pensons que le chef aura désormais toutes les informations qu'il avait besoin pour comprendre davantage et approfondir la question et enfin de sanctionner avec le gouvernement d'Union nationale. Donc maintenant, par rapport à ce qu'ils disent, il y en a tel et tel autre qui n'était pas venu, là n'est pas notre problème. Autant le Congolais a le droit d'être consulté, autant le même Congolais a le droit de refuser une consultation. Il s'agit d'une consultation pour écouter les différents points de vue des Congolais sur la question de notre survie, de notre existence. C'est ça le problème.
Là, c'était du côté de l'Union Sacrée, mais aussi il y a l'opposition avec M. Rodrigue Ramazani. Il est secrétaire général du parti Envol, qui est de Délice Sanga, un parti d'opposition en RDC. On l'écoute aussi.
M. Tshisekedi, en lançant ses consultations, pensait évidemment, à travers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, avoir trouvé la pharmacopée idéale afin de résoudre cette crise que malheureusement aujourd'hui nous sommes à la conclusion de cette consultation, nous constatons qu'il s'agissait plutôt d'une comédie qui frôle quasiment le ridicule. Écoutez, nous sommes en train de parler des choses très sérieuses, il faudra avoir des postures suffisamment responsables pour comprendre les enjeux et l'avenir que nous courons sur la situation sécuritaire dans notre pays aujourd'hui, en lieu et place de s'amuser dans ce perte de temps. Pendant ce temps, nous avons, quand nous comptabilisons des morts, on nous parle de près de 10 millions de déplacés internes, c'est énorme. Ce sont des questions de responsabilité, je tiens à rappeler.
Et justement, la formation de ce gouvernement, ça sera pour mettre fin à cette crise.
Le problème n'est pas lié seulement à un gouvernement, au partage de postes comme le veut ses consultations. Le problème est plus profond que ça. Parce que je tiens à rappeler que rien n'empêche le pouvoir Tshisekedi d'y résoudre la crise. Le moyen qu'il a demandé, on le lui a accordé pour la défense, plus de 1 milliard de dollars l'an. Ils l'ont dépensé pendant 3 mois dans le détournement en autre chose qu'à aller résoudre le vrai problème. Ils ont voulu recruter des mercenaires, ils l'ont fait. Ils ont dénaturé l'armée en y intégrant des éléments intrus, les Wazalendo. Ils l'ont fait. Mais est-ce qu'on a trouvé des solutions au problème? Non. Je tiens encore à rappeler que ce n'est pas la toute première consultation sous Tshisekedi, c'est la deuxième. La première consultation avait notamment la question de la solution de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Est-ce que nous en sommes arrivés là? Non. Nous sommes en train de courir un risque de l'existence de notre nation parce que M. Tshisekedi avait levé des options d'irresponsabilité qui aujourd'hui a envenimé la situation où nous avons nos territoires qui sont occupés pendant plus de 3 ans, où nous avons des armées étrangères sur notre sol, où nous sommes en train de risquer de perdre une partie de notre territoire, chose que nous ne souhaitons pas.
Ça, c'est la divergence de point de vue par rapport à ces consultations. À vous la parole, chers confrères. Y aura-t-il vraiment une fin des crises politiques et sécuritaires à l'est du pays au sortir de ces consultations politiques? Brunel Kati.
Voilà, je viens de suivre les deux interventions. Je me dois ici de souligner tout d'abord qu'une consultation politique qui se sont déroulées à Kinshasa en cette période de tension politique. C'est une initiative premièrement que louable et face à une crise majeure, tant sur le plan économique qu'en matière de sécurité. Il est très crucial de rassembler, n'est-ce pas, les forces vives de la nation pour trouver des solutions constructives. Mais il y a lieu ici de rappeler que les consultations n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, elles ont toujours été, n'est-ce pas, un moyen de rassembler des acteurs politiques autour d'une table pour discuter des enjeux cruciaux du pays, des Mobutu à Félix Tshisekedi en passant par Kabila, ces consultations ou les consultations ont eu lieu dans ce pays. Cependant, l'histoire nous montre que ces consultations n'ont pas toujours donné les résultats escomptés. Souvent, les agendas, n'est-ce pas, des différents acteurs sont en conflit. Celui qui initie la consultation à ses propres objectifs, c'est tout comme ceux qui y participent. Nous voyons qu'à ces consultations, chacun pouvait venir avec ce qu'il appelle cahier des charges. Et ces divergences peuvent mener à une attaque, voire à des crises supplémentaires, comme cela a été le cas par le passé. Et je me souviens ici lors de la prise de M. Kabila, qui a multiplié aussi une consultation sans pour autant résoudre la crise politique. Il vous souviendra, n'est-ce pas, de la période des Demkodio comme facilitateur, des M. Badibanga, qui à son temps a été nommé, n'est-ce pas, Premier ministre, et à la suite de l'opposition des opposants, permettez la redondance, il y a eu des changements pour céder, n'est-ce pas, M. Tshibala. Au contraire, ces rencontres ont souvent abouti à des dépossages politiques en outre. Et où des membres de l'opposition ont été des fois attirés vers le pouvoir, tout en laissant la crise sous-jacente intacte, cela montre que même si les consultations peuvent sembler une solution, elles peuvent également exacerber les tensions. Donc, il est très important aujourd'hui de prendre tous les facteurs pour que ces consultations soient réellement efficaces, il est impératif d'inclure, n'est-ce pas, tous les acteurs politiques, notamment ceux qui sont à l'origine des crises.
Brunel, vous sentez qu'il y a une partie des Congolais qui n'ont pas donné leur point de vue à ces consultations. Pouvons-nous dire que le problème de la RDC reste encore entier?
Ce qui est préoccupant de constater que les ténors de l'opposition, comme Moïse Katumbi, Joseph Kabila et Martin Fayulu, n'ont pas été consultés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Mais pourquoi ils ont refusé? Est-ce la détermination de bien vouloir imposer la République dans les contextes où nous sommes? Ces consultations visent, n'est-ce pas, la sortie de cette crise. Donc cela soulève des doutes quant à la volonté réelle de résoudre les problèmes fondamentaux du pays exprimés par différents acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, M. Kabila est accusé d'être derrière, n'est-ce pas, l'AFC de M. Nanga. Les opposants sont accusés de soutenir les rebelles. Mais si ces derniers refusaient de répondre, n'est-ce pas, à un appel qui vise à donner des solutions au conflit que nous connaissons, nous pensons qu'il y a un but sous roche et que ces consultations semblent alors favoriser ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils ont été majoritairement consultés, n'est-ce pas, et ceux qui sont à l'origine de cette crise ont préféré rester à l'écart. Donc pour moi, je pense que le contexte dans lequel nous sommes, il y a lieu de pointer du doigt aujourd'hui les proposants qui favorisent, n'est pas, l'alimentation et qui envenime davantage cette crise pour les peuples de s'accrocher plus aux sensationnels en lieu et place de laisser exprimer la raison pour la sortie de cette crise.
Quel est le bilan que vous dressez de ces consultations, Crispin Focas, par rapport à la divergence aussi des points de vue?
Oui, merci beaucoup Freddy, merci de cette opportunité. Je pense que les consultations, comme Brunel l'a dit, c'est une voie pour trouver des solutions dans un pays, dans une nation qui traverse des moments difficiles, des moments compliqués, notamment la guerre qui nous est imposée à l'Est. Oui, je disais que ici nous constatons que l'Union sacrée a consulté l'Union sacrée. Voilà, puisque la majorité de ceux qui ont été consultés, ils viennent de l'Union sacrée. Même si on a vu une aile du FCC qui a aussi participé à ces consultations, mais vous avez suivi les cadors du FCC ont vite rejeté, même Joseph Kabila lui-même a rejeté toute implication du FCC dans ces consultations. Et nous constatons aussi que l'Union sacrée continue à tenir les mêmes langages qu'on a connus avec les régimes passés, notamment à travers ce que Fumutoto a dit. Si tel ou tel autre Congolais n'est pas venu, c'est dans ce droit, le Congolais a le droit d'être consulté. Donc on a vu tout ça avec le pouvoir passé. Cela donne des doutes sur l'issue de ces consultations. Si elles peuvent être une réussite, c'est puisque l'Union sacrée s'est consultée et que chacun a apporté des recommandations, des amendements pour que le prochain gouvernement qui va venir puisse être un gouvernement qui inclut tout le monde. Mais d'un côté, il y a aussi l'opposition qui pense que c'est une comédie. C'est une comédie puisque ces consultations n'auront pas de solution aux problèmes de détournement et autres dévues qui se font dans le pays. Il y a le recrutement des mercenaires qui a eu lieu, il y a eu une armée parallèle, notamment le Wazalendo, il y a Ramazan qui est allé même plus loin pour dire que le problème de la RDC, c'est Félix Tshisekedi lui-même, puisque le territoire est occupé pendant 3 ans, rien n'est fait. Alors vous comprenez que l'opposition, de manière générale, les classiques de l'opposition tels que nous les connaissons, les grands opposants de ces pays sont à l'écart de ces consultations. Alors nous nous posons la question de savoir quelle va être l'issue du gouvernement qui sera mis en place, comment Félix Tshisekedi et le gouvernement qui sera mis en place pourront s'y prendre pour que ce gouvernement soit celui qui puisse apporter des solutions aux problèmes de l'État.
Mais Crispin,
oui.
Il y a Brunel Kati qui a dit que ces consultations étaient en tout cas une voie favorable pour la paix, la sortie pacifique de la crise en RDC. Mais vous, c'est comme si vous semblez en tout cas rester dans les doutes qu'il n'y aura pas changement de quoi que ce soit sur le terrain.
Oui, il l'a dit, une issue, oui. C'est puisque les postes seront distribués, il y aura partage du gâteau. Mais est-ce que cela résoudra effectivement les problèmes qui se posent à l'Est? Est-ce que c'est en mettant en place un gouvernement d'union nationale que le M23 va se retirer des zones occupées? Est-ce que c'est en mettant en place le gouvernement d'union nationale que la crise va cesser à l'Est, que les tueries vont cesser, que les femmes ne seront plus violées? Moi, je pense que le grand problème, c'est autour du consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. Et c'est là que je voudrais faire intervenir la communauté internationale qui doit rassembler les parties prenantes, qui doit aider les Congolais à les mettre ensemble pour trouver un consensus, puisque cette même communauté internationale, elle a déjà blâmé le Rwanda. Elle a donné des sanctions au Rwanda. Elle a gelé les avoirs de certains Rwandais qui soutiennent le M23, l'AFC et autres groupes armés. Mais est-ce que sur terrain, la situation a changé? Le M23 continue à tuer, le M23 continue à semer la terreur. Je pense que c'est ici l'occasion, comme la communauté internationale s'est déjà impliquée dans cette guerre, et que les États-Unis ont pris aussi leur part pour trouver une issue dans cette crise, notamment avec Boulos qui était au Rwanda, qui a rencontré les dirigeants rwandais. Je pense que c'est déjà une issue pour trouver une solution par rapport à cette guerre. Mais tant que ça sera l'Union sacrée qui est consultée par l'Union sacrée, moi je pense, à mon avis, je mets beaucoup de doutes pour que le prochain gouvernement puisse apporter quelque chose de palpable et de paix.
Alors, de votre côté, Monsieur Obed Kambale, comment analysez-vous la fin de ces consultations politiques qui, depuis mardi, en tout cas, le conseiller va devoir donner le rapport au chef?
Oui, il faut d'abord noter la volonté du président Tshisekedi de réunir les Congolaises et Congolais autour de lui pour faire face à l'agression rwandaise, parce que la crainte de la balkanisation, elle est réelle. Aujourd'hui, les villes de Goma, les villes de Bukavu, certains territoires du nord Kivu, du sud Kivu, sont toujours sous contrôle du Rwanda sous couvert du M23 AFC. Je crois que l'initiative, elle est bonne. On doit mettre fin aux souffrances des populations de l'Est et qui souffrent donc pendant plus de 30 ans. Mais malheureusement, ce que j'ai constaté, l'autre confrère vient de le dire, Union Sacrée a consulté l'Union Sacrée. Il y a certains gens ou certains politiciens qui ont été consultés, même certains cadres de la société civile. Pour eux, bon, ils sont venus rien que pour le partage du gâteau. L'occasion est là, il faut sauter sur l'occasion. Mais il y a certains regroupements politiques, parmi les rares, il y a...
Comme quoi ?
L'un des 50 de Julien Paluku, qui est venu, lui, avec des propositions de sortie de crise, c'était parmi les rares.
Il est aussi de la...
Bien sûr, parce que beaucoup de gens sont venus, rien que, bon, comment on va partager le gâteau ? Mais il faut venir en amont avec des propositions qui seront remises, bien sûr, au président de la République démocratique du Congo. On doit éviter aussi le problème de débauchage. On l'a connu sous Kabila.
Même à l'époque de Mobutu.
Même à l'époque de Mobutu. Pour moi, ça ne résout pas le problème. Parce que les grandes figures de l'opposition, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga, au Boudéa, la main tendue du président de la République démocratique du Congo, vous savez, l'FCC n'a pas encore digéré le divorce entre les FCC
et les
cash, et puis ils sont toujours prudents et disent, bon, est-ce que si nous venons, est-ce cette fois-ci on ne sera pas dribblé? Également, semble pour la République, a connu ses mariages, est-ce qu'il faut revenir pour se réconcilier?
Je crois que l'INC de Vital Kamerhe aussi.
Bien sûr, même l'INC de Vital Kamerhe. Alors, je crois que chaque parti veut avoir plus de garanties pour s'engager autour du président de la République, parce que selon certains opposants, le président chercherait des béquilles pour protéger son pouvoir. Or, le pays est en danger. Les Congolais sont obligés de se liguer derrière le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais lui aussi doit être comme un arbitre qui doit être neutre. Il ne doit pas être pris dans le carcan de l'Union Sacrée. Il doit être au-dessus de la mêlée. Par exemple, pour moi, s'il y a un tête-à-tête demain après-demain entre le président Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila, qui sont les grands leaders de ces pays, l'un c'est le président en exercice, l'autre c'est l'ancien président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans, je crois que ce sera un signal fort pour que les Congolais puissent se mettre ensemble. Côté Fayoulou, côté Moïse Katumbi, ils disent nous sommes prêts, n'ont pas refusé catégoriquement, mais ils s'alignent derrière l'initiative de la CENCO-SCC. Pour eux, ils rêvent encore l'accord de Saint-Sylvestre avec les évêques, les pasteurs. Pour eux, il y aura peut-être une garantie. Alors, je crois que... si le président y tient, parce que je ne crois pas par quelle magie aussi un gouvernement d'union nationale pourrait résoudre la crise sécuritaire sur terrain, je ne trouve pas des coups de baguette magiques.
Il y a une question qui se pose. Pourquoi ces silences des acteurs de la société civile congolaise qui ne veulent pas se prononcer sur ces consultations politiques?
Je crois qu'une partie de la société civile a été consultée. Bon, la consultation, c'est un échantillonnage. On ne pourra pas consulter tout le monde, mais je ne sais pas si tous les ténors de la société civile ont été consultés. Même s'il y aura un gouvernement, là, il y aura les acteurs de la société civile, ce ne sera pas le premier gouvernement. On a connu ça en République démocratique du Congo. Je peux faire un parallélisme. Supposons Obed est nommé demain ministre de la Défense, concrètement sur le terrain. Si le préalable n'a pas été réglé, au risque de tourner à rond.
Est-ce que dans ces gouvernements d'union nationale, ça reste le secret du président, y aura-t-il aussi des émissaires du M23?
Bon,
ça pourrait être possible.
Oui. Moi, je crois que tout est possible parce que la partie qui est sous contrôle du Rwanda, qui est administrée même aujourd'hui par l'M23 AFC, je crois, l'AFC M23 même, malheureusement, ils sont qu'est des pions du Rwanda. Le Rwanda peut le placer où, quand il veut, ce sont des marionnettes. Mais je ne crois pas qu'on pourra résoudre ces problèmes sans les associer. Soit le gouvernement a des options, soit on les associe dans les négociations ou bien dans les prochains gouvernements, soit on applique la force, donc que les FRDC mettent les bouchées doubles pour en finir une fois pour toutes avec le M23. Si tel n'est pas le cas, sinon pour moi avec les consultations du professeur Casimir Eberande Kolongele, serait mettre la charrie devant le bœuf, mais j'espère qu'il y a des techniciens du gouvernement. Et puis pour terminer, chers confrères, je crois que sur le plan stratégique, les gouvernements feraient, ça c'est mon conseil que je prodigue au gouvernement, on peut accepter de faire venir ces marionnettes de Paul Kagame, et ainsi de suite, et pendant ce temps, le gouvernement ne doit pas dormir si c'est laurier, le gouvernement se prépare, et un jour, le gouvernement pourra sortir ses biceps. On l'a connu avec l'opération Pomorange. Hein. Le gouvernement s'est fait aussi qu'il était faible, mais stratégiquement, il n'est pas faible. Le moment venu, il pourra se venger pour en finir avec toutes ces rébellions.
Un peu de mots, comment trouvez-vous l'issue de ces consultations politiques? On attend un gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'on pourrait avoir les émissaires du M23 dans ce gouvernement d'union nationale ou ça ne pourrait pas être le cas, Brunel?
Cela doit être impossible. Parce qu'il est crucial aujourd'hui que nous puissions nous mettre en tête que les acteurs armés doivent nécessairement être tenus pour responsables de leurs actes. Ils ont endeuillé combien de familles? Ils ont tué combien? Et que des mesures soient prises pour rétablir, n'est-ce pas, l'ordre sans aucune forme de compromis qui pourrait inspirer ici des avantages pour les rebelles. L'État doit impérativement restaurer sa souveraineté et garantir la sécurité de ses citoyens en sanctionnant, bien entendu, ce qui menace l'intégrité territoriale et la paix sociale. Si aujourd'hui les M23 sont récompensés, permettez de les pluraliser avec ses partenaires, mais ça va entêter d'autres compatriotes à prendre des armes demain, pensant bien qu'après leur revendication, ils vont se retrouver face à la bande. Nous devons décourager ces choses.
Crispin, pour vous, un mot par rapport à la configuration de ces gouvernements d'union nationale au sortir de ces consultations politiques.
Et moi, je reviens sur les propos du chef de l'État lui-même. Il a dit qu'il ne peut pas négocier avec les pantins de M23, qui sont des marionnettes de Paul Kagame. Alors si aujourd'hui, ces pantins, ces marionnettes de Paul Kagame se retrouvent dans le gouvernement, donc le chef de l'État aurait trahi toute une nation. Moi, je pense qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de s'organiser, de prendre toutes les mesures possibles pour récupérer les parties occupées par la rébellion. Et c'est en imposant la force, comme une nation.
Nous sommes en politique, ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait.
Mais s'il vous plaît, Freddy, vous croyez que un Congolais sérieux, un Congolais patriote, accepterait voir un cadre du M23 ou un membre du M23 dans le gouvernement en pensant à toutes ces tueries, à toutes ces femmes violées, à toute cette misère imposée à la population de l'Est, et ce Congolais-là sera tranquille de voir un dirigeant comme celui-là gérer ce pays. Moi, je pense que le Congo, la RDC comme nation, doit s'assumer, et la meilleure façon de s'assumer, c'est de s'imposer sur le terrain, organiser son armée, même si aujourd'hui, l'armée est toujours appuyée par d'autres forces loyalistes à travers les différents pays africains. Je pense qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de s'imposer sur le terrain pour récupérer et gagner cette guerre par la voie diplomatique ou la force.
Merci. Obed, c'est un gouvernement d'union nationale. Hein?
En politique, rien n'est impossible. Vous l'aviez dit, mais c'est que je vais souhaiter que ce soit un gouvernement des vertébrés et que le président puisse faire un très bon casting. La République a des fils et filles hein, qui sont capables de relever les défis pour que la République démocratique du Congo puisse décoller. Et outre la fait des négociations officielles, les négociations secrètes peuvent continuer hein, pour toujours tenter de convaincre les grosses légumes de l'opposition, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et les autres, parce que en politique, rien n'est impossible. La politique, c'est le monde d'intérêt.
Pendant ce temps, les Congolais, les yeux sont rivés vers Doha, au Qatar, là où le délégué du M23 et ceux du gouvernement se rencontrent. Ils sont là-bas. Et on attend l'issue de leur assise, si du moins il y aura quand même des lueurs d'espoir. Mais des controverses autour de leur rencontre à Doha, par exemple, on cite qu'ils ne se sont pas parlé, mais avec ces controverses, je vous prie de suivre ce que nous a donné comme récit des faits Papi Martial Moukeba par rapport à la rencontre entre le M23 et le membre du gouvernement.
Présentée comme une avancée majeure dans la recherche d'une sortie de crise à l'est de la RDC, la rencontre entre les gouvernements congolais et les rebelles de l'AFC M23 à Doha a finalement été reportée selon l'agence Reuters. Les deux camps ont précisé qu'aucune invitation officielle n'avait été envoyée. Un responsable congolais reconnaissant même, je cite, un problème d'organisation. Cependant, d'autres sources confirment que les deux délégations se trouvent à Doha. La délégation de l'AFC M23, conduite par le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimoua, accompagné du colonel Imani Nzenze, chargé des renseignements et des opérations militaires, aurait même posé plusieurs préalables qu'elle présente comme des mesures de confiance pour entamer des négociations directes avec le gouvernement. De son côté, le gouvernement exigerait un cessez-le-feu sans condition, notamment les retraits des rebelles des villes de Bukavu et Goma. Nos sources évoquent des positions transmises à la médiation Qatari qui annonce des discussions difficiles dont l'issue dépendra de la volonté des deux parties à trouver intérêt d'attente. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Voilà en fait ce que nous voyons de Qatar, mais que nous cache Doha où Kagame Tshisekedi se sont rencontrés sans intermoiement et maintenant leurs délégués s'y retrouvent pour la question de l'Est du pays. Que comprendre de cette démarche, Brunel?
Ici, je dois d'abord souligner un élément. La population congolaise exprime, n'est-ce pas, une attente claire et unanime. Hier, je pris part à une conférence organisée dans la province de Lualaba, précisément à Kolwezi, où madame la gouverneure Fifi Moshkasaïdi a parlé de quelque chose sur ça. Le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo est une obligation. Et cela est le souci de nous tous. Les Congolais aspirent à une normalisation des conditions de vie. Oui, c'est possible aujourd'hui de voyager de Kinshasa à Goma, de Bukavu à Lubumbashi, de Lubumbashi à Wadikale, en toute sérénité. D'où il est impératif aujourd'hui cette conférence que les discussions engagées soient authentiques et non de simples manœuvres des conciliabiles. Il est inacceptable de continuer à traiter les groupes armés comme des interlocuteurs légitimes, en leur offrant une opportunité de partage du pouvoir à chaque soulèvement. Nous venions d'ailleurs de le dire aussi. La fermeté est essentielle. C'est vrai. On va devoir échanger avec la délégation, n'est-ce pas, le groupe rebelle. Mais ils doivent se mettre en tête qu'il y a les accords de Nairobi. Il y a différents accords qui traitent déjà les problèmes, n'est-ce pas, des groupes armés. Les chefs de l'État avaient raison. De refuser toute forme de négociation qui impliquera un partage de prérogatives, car cela ne ferait que légitimer la violence et l'insurrection. Donc, il est crucial aujourd'hui que les acteurs armés soient tenus responsables de leurs actes. D'où les discussions initiées au Qatar doivent se concentrer sur des vérités fondamentales permettant, n'est-ce pas, un dialogue franc et constructif en vue d'un retour à une paix durable. La souffrance endurée par la population congolaise est immense. Et il est impératif que cette situation ne perdure pas. De nombreuses familles ont été dévastées. est bien pourdue et le tissu social gravement affecté, la société congolaise refuse de continuer à vivre dans cette instabilité chroniquement alimentée. Ainsi, notre appel est clair. Il est essentiel que la situation soit résolue de manière définitive, tant sur le plan interne qu'externe. Cela implique des discussions sincères à l'intérieur du pays, où toutes les parties prenantes doivent se confronter aux réalités sur le terrain, tout en consolidant bien entendu une position commune face aux ingérences étrangères qui cherchent à affaiblir notre souveraineté. Parce que les différentes, n'est-ce pas, les exigences de ces groupes rebelles répondent d'une façon directe aux attentes de l'ennemi qui nous combat, qui est le Rwanda.
Obed Kambale, ça fait plus de 3 ans. Maintenant, à Doha, le délégué du gouvernement et ceux du M23 se sont vus face à face.
Bien sûr,
pour la première fois.
Oui, en technique des négociations, chaque parti doit vouloir monter la barre très haut et au fur et à mesure, les négociations pourront continuer, pourront tomber sur un accord ou bien sur un consensus. Il y a les négociations, entre guillemets, des Doha, c'est passerait dans un angle en paix fermé au stade actuel, mais c'est comme une grossesse. Hein. Au fur et à mesure, on saura un peu davantage qu'est-ce qui se passe au niveau de Doha. Si et seulement si hein, ces négociations reprenaient à Doha, vous savez, la crise en RDC, surtout dans sa partie est, est là des causes endogènes et exogènes. Je souhaiterais qu'on fasse étude du casting des négociateurs que la RDC à envoyer ou bien pourra envoyer au fur et à mesure. Je souhaiterais qu'on puisse éviter le copinage, copains, copines, qu'on pourra envoyer face à ces rebelles qui sont téléguidés, sont comme des télécommandes, téléguidés par, par Paul Kagame. Hein.
Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir avec cette rencontre de Doha?
Je crois que c'est sur terrain, parce que sur terrain on doit se battre et au même moment on doit continuer à se parler. C'est pourquoi j'attire ici l'attention du gouvernement et du président de la République. Il faut qu'on puisse envoyer des vrais techniciens qui feront partie des négociateurs pour le compte de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas envoyer les gens inexpérimentés parce que il y a des pièges qu'on pourrait mettre, par exemple, supposons un jour nous tombons sur un accord avec ces panthères hein, du M23, une année, 10 ans, même 30 ans plus tard. Si on n'a pas envoyé des vrais techniciens, puis la République dispose des vrais techniciens qui maîtrisent tellement la région des Grands Lacs, et l'occasion est là pour que le gouvernement puisse dénicher ces oiseaux rares-là pour faire des négociations techniques avec le Rwanda de Paul Kagame, et que les négociations de Doha ne puissent pas endormir l'armée au niveau des différentes lignes de front au nord Kivu. Ça peut aussi être une des techniques hein, de l'ennemi pour faire endormir les forces armées de la République démocratique du Congo un jour qu'elles soient surprises par les forces spéciales rwandaises et le supplétif d'IAM 23 et que les massacres par exemple des Beni, Oicha, Eringeti, Irumu ne puissent pas être oubliés par le gouvernement malgré la mutualisation des forces FARDC UPDF. Les massacres se portent toujours bien à Beni, à Oicha et puis dans une partie du territoire d'Irumu dans l'Ituri. Il serait mieux également que le gouvernement puisse mettre l'accent en ce qui concerne l'évaluation objective des opérations conjointes FARDC-UPDF.
Crispin Focas, comment trouvez-vous cette rencontre M23 et envoyé du gouvernement à Doha, au Qatar?
Oui, déjà, le fait que les deux parties s'entracusent, les uns disent qu'il n'y a pas eu d'invitation officielle, les autres posent des préalables, notamment un cessez-le-feu sans condition. Je pense que ces rencontres, au lieu d'être une lueur d'espoir, risquent encore d'être une nuit sombre, permettez-moi la tautologie. Je voudrais ici dire que tant qu'il y aura toujours des préalables d'un côté et de l'autre, il n'y aura pas d'issue à cette crise. Et je voudrais ici attirer l'attention du gouvernement pour que ce gouvernement ne puisse pas rester dans la léthargie. La rébellion, elle reste une rébellion, et le fait que aujourd'hui les représentants du M23 sont à Doha pour une négociation ne veut pas dire que sur le terrain ils ont cessé les hostilités. Moi, je pense que le gouvernement doit être très vigilant, très attentif, et je salue déjà ce que font nos vaillants soldats des FARDC avec le Wazalendo. Je pense qu'ils doivent rester vigilants pour que sur le terrain les caps soient maintenus, que la sécurité soit assurée, du moins pour les territoires qui sont encore occupés par les FARDC, et entre-temps trouver des mécanismes pour que les territoires occupés par les rebelles puissent être récupérés. Donc, à mon avis, tant qu'il y aura des conditions posées d'un côté et de l'autre, je pense que ces négociations ne pourront apporter rien d'essentiel, puisque une rébellion n'a jamais libéré un pays, une rébellion n'a jamais apporté la paix tant attendue. Il suffit de voir ce qui se passe, ou si vous causez avec nos frères, nos sœurs, nos amis qui vivent à l'Est, vous constaterez qu'ils vivent des conditions très précaires.
C'est tout pour ce soir. Tribune de la Presse a connu la participation de Brunel Kati, journaliste, chercheur en sciences juridiques basé à Kolwezi, en province de Lualaba. Crispin Focas, journaliste, reporter, directeur de la Radio Soleil FM à Kananga, au Kasaï Central, et aussi il est du média en ligne laplumeinfo.net. Et ici au studio, nous étions avec M. Obed Kambale, journaliste de Digital Congo, ici à Kinshasa. J'ai dit merci à toute l'équipe au capi de la Tribune de la Presse, Kelly Kouté, Guy Maté, sous la supervision de Martin Sebou-Djangwe. À la technique, c'était Polydor Basunga et Hervé Voka Simba. Au micro, Freddy Bikumbi Ignace.